Et oui, libre et indépendant grâce à vous, et c'est pourquoi, parce que nous sommes libres et indépendants, que c'est l'heure de la chronique de Rémi Carleux qui va nous parler de l'Odyssée. L'Odyssée, vous savez, Homère, et qui est adapté au cinéma depuis, qui est sorti mercredi.
Effectivement, je me suis rendu hier soir au cinéma en charmante compagnie pour voir enfin l'Odyssée. Le public était jeune et la salle comble, visiblement satisfaite et moi avec, de redécouvrir ce mythe prodigieux reconfiguré par Christopher Nolan. Épopée sans équivalent ou presque, l'Odyssée est une source proprement inépuisable, qui multiplie à l'infini les niveaux d'interprétation et qui, partant de l'errance d'un petit chef de guerre au XIIe siècle avant Jésus-Christ, a su toucher par l'envergure des questions qu'elle brasse l'universalité de notre condition humaine. Et puisqu'il y est question d'un roi, je voudrais en faire ici une lecture politique, non qu'il s'agisse de dire si Ulysse, Pénélope ou Calypso sont de droite ou de gauche, je ne voudrais pas empiéter sur les plates-bandes de l'inimitable Richard XVI, mais plutôt d'en tirer des enseignements sur ce qu'est le politique, pourquoi le pouvoir, qu'est-ce qu'un chef, quel rapport entre le profane et le sacré.
Et donc tout commence à Ithaque où les prétendants se bousculent pour le trône, qu'en concluez-vous?
La toile de fond de l'Odyssée, c'est effectivement la vacance du pouvoir à Ithaque pendant près de 20 ans. Son monarque Ulysse s'étant engagé dans la guerre de Troie pendant une décennie, puis se perdant sur le chemin du retour pendant une décennie supplémentaire, la paisible cité s'enfonce dans une inquiétante crise de succession. Une centaine de prétendants se disputent donc la main de Pénélope, car épouser la femme du roi disparu leur permettra d'hériter du trône. Ses prétendants s'installent au palais, méprisent les lois, dilapident les richesses du royaume en de copieux festins, mais personne n'a suffisamment d'autorité pour les arrêter, pas même le valeureux Télémaque, le fils d'Ulysse, trop jeune encore pour ceindre la couronne. En clair, sans une autorité légitime et consentie, les institutions sont extrêmement fragiles et le chaos nous guette. La politique, l'ordre, l'autorité sont une nécessité qui découle de notre humaine, trop humaine condition afin d'en juguler les plus vils appétits. Sans hiérarchie stable et établie, tout le monde se croit appelé au pouvoir et l'on sombre bientôt dans la guerre civile. Pour rétablir la situation, il faut encore un être de chair en la personne d'Ulysse. En clair, le droit anonyme ou les institutions toutes nues ne suffisent jamais à eux-mêmes et ne sont effectifs que s'ils sont incarnés par une personne bien réelle, présente et visible, intégrée dans un tissu relationnel, légitimé par ses bonnes actions antérieures. En peignant ainsi le désordre, l'Odyssée nous rappelle surtout combien la paix, ultimement rétablie par le retour du roi, est un bien politique inestimable.
Et pendant ce temps, Ulysse vogue avec ses compagnons pour rentrer à Ithaque. Quelle leçon politique tirez-vous de ce voyage homérique?
Eh bien, le défaillant Ulysse n'a pas la noblesse d'Hector. Et pourtant, si on lit et regarde l'Odyssée tel un miroir des princes, ces traités médiévaux de bonne conduite destinés aux chefs d'État, on peut en tirer, je crois, quelques utiles leçons sur ce qu'est un véritable chef. Le bon chef sera avant tout intelligent. Contrairement à l'Iliade qui valorise la force guerrière d'Achille, l'Odyssée fait d'Ulysse un modèle de gouvernant qui l'emporte par la ruse d'habileté et la patience. L'intelligence est bien ce qui nous distingue de la condition animale et de ces cochons en lesquels Circé a transformé ses compagnons d'infortune pour s'être laissé abrutir par les plaisirs de la chair. La politique sera autre chose que la loi de la jungle. Le bon chef sera ensuite fidèle et loyal. Nolan dépeint Ulysse en un chef véritable, quoique très imparfait, qui aime profondément ses compagnons malgré leurs faiblesses et se donne pour mission de les conduire à bon port. Il pleure chaque mort et s'en sait redevable au point de se soucier de leur paix dans l'au-delà. Fidèle à ses amis, Ulysse l'est aussi à sa terre et aux siens. Il aurait pu s'oublier à jamais dans les bras lascifs de Calypso, mais l'appel du devoir, de cette patrie qu'il aime tant et de cette Pénélope qu'il chérit, finissent par tout emporter. Le bon chef sera aussi humble. L'Odyssée renverse complètement l'idéal héroïque antique. En atteste cet Achille qui, dans les enfers, regrette d'avoir préféré la gloire à la vie. Pour vaincre le cyclope, Ulysse doit aller jusqu'à oublier sa propre identité en se nommant personne, et c'est l'excès d'orgueil qui suit, puisqu'Ulysse ne peut s'empêcher de crier son nom véritable, qui déclenche en retour les foudres de Poséidon. Non, décidément, ce n'est pas la vaine gloire qu'il faut chercher, ni l'immortalité promise par Calypso, mais le retour à la vie vraie, bonne et mesurée. Enfin, le bon chef acceptera le tragique de l'existence humaine. Face à Charybde et Scylla, entre la mort de quelques-uns ou la mort de tous, la ruse d'Ulysse ne suffit plus pour fuir le tragique de la vie. Être un chef, c'est donc savoir qu'une part du monde échappe toujours à notre contrôle.
L'Odyssée, c'est aussi une affaire de divinité. Comment Ulysse se comporte-t-il vis-à-vis du sacré?
Eh bien, Nolan nous montre un Ulysse torturé par sa conscience et hanté par ses agissements passés. Grâce à sa ruse ultime, l'invention du cheval, la guerre de Troie a été gagnée par les Grecs. Mais Ulysse comprend vite que quelque chose de beaucoup plus important a été perdu en chemin. La civilisation troyenne a été détruite, mais ce faisant, c'est la civilité elle-même qui a disparu. Tout le poème d'Homère insiste sur l'importance de la Xenia, qui devient la loi de Zeus dans le film de Nolan, c'est-à-dire les vertus de l'hospitalité. En clair, chaque indigent ou étranger doit être accueilli dignement car il pourrait être un dieu déguisé. Au passage, comment ne pas voir ici une préfiguration de cet homme fait à l'image de Dieu que révélerait bientôt le christianisme? Or, ces règles de l'hospitalité ont été violées par Paris qui enlève Hélène chez Homère, par le cheval de Troie chez Nolan qui dénonce une félonie déguisée en offrande à Athéna. Agissant comme des bêtes, les hommes ont profané la loi sacrée et jeté un trouble dans l'entièreté de la création, le mal appelant le mal par ricochet dans une gigantesque boucle de punitions et de vengeances qui mêle homme et divinité. L'Odyssée nous met ici en garde contre l'hybris des hommes, leur refus des limites, leurs transgressions incessantes de l'ordre cosmologique. Anti-héros repenti, Ulysse nous enseigne que le prince, aussi vulnérable que tout un chacun, ne peut pas tout se permettre, que le profane doit pieusement respecter le sacré, sans quoi c'est tout un monde qui s'enfonce inéluctablement dans le chaos. Homère l'affirme lui-même, par la bouche de Pénélope parlant sans le savoir à Ulysse déguisé en mendiant, « Le roi parfait, redoutant les dieux, vivra selon la justice. » Puissent nos politiciens, qui viennent eux aussi de violer la loi de l'hospitalité en votant une loi inique, un jour s'en souvenir.
Merci Rémi Carlu. Alors vous parliez de ces règles de l'hospitalité violées, bah, y en a qui les... L'hospitalité, ses règles, si ça soit dessus, marche dessus. Et la France continue pourtant à leur lécher les babouches. Bah, c'est bien l'Algérie, parce qu'ils nous crachent dessus, mais ils sont bien contents d'avoir des immeubles là-bas, de venir se faire soigner. Je ne parle pas des ressortissants. Et vous, Arnaud Benedetti, vous étiez l'un des plus grands, plus fervents défenseurs de Boualem Sansal lorsqu'il était otage du régime algérien. Il y a un autre otage en ce moment en France, un autre otage français en Algérie. C'est Christophe Glaize. Alors toutes les semaines on nous annonce qu'il va être libéré, il y a une grâce, il y a la Coupe du Monde de foot, il y a Trump, il y a que dalle, que chi, il est toujours en tôle. Qu'est-ce qui se passe?
Bah écoutez, il faut le demander à Monsieur Barrot, à Monsieur Macron. La réalité c'est que vous l'avez justement dit, c'est que depuis trois mois on a cessé de nous annoncer la libération imminente de Christophe Glaize. D'abord, au moment de la visite du pape, il faut s'en souvenir, on nous disait « Ah mais le c'est pape, vrai. Si le pape sera en Algérie, nous allons avoir une bonne nouvelle. » Et Christophe Glaize sera libéré. On nous l'a annoncé en effet ensuite au moment du démarrage de la Coupe du Monde, parce qu'on nous disait en effet « Il n'est pas possible que l'équipe d'Algérie se rende à la Coupe du Monde de football pendant que le régime algérien détient dans ses géoles un journaliste sportif spécialisé dans le foot, qui plus est. » Et puis on nous a annoncé le 5 juillet, au moment de la fête de l'indépendance, une amnistie dont aurait pu bénéficier avec d'autres... Christophe Glaize, il n'en est rien. Cela signifie tout simplement, c'est que le gouvernement algérien, le régime algérien, fait de Christophe Glaize une monnaie d'échange, c'est un moyen de pression sur les autorités françaises. Il bénéficie de deux choses. Première chose, c'est que le soutien pour Christophe Glaize n'est pas du tout le même que celui pour Boualem Sansal, clairement.
Mais il n'y a pas de comité de soutien.
Alors il y a RSF, paraît-il, qui s'en occupe, Reporters sans frontières.
Oui, mais il s'occupe aussi de CNews, alors c'est compliqué
donc,
de savoir.
On a du mal aujourd'hui à voir quelle est la visibilité de cette action, mais parce que tout simplement les soutiens de Christophe Glaize, à la différence des soutiens que nous étions pour Boualem Sansal, ont fait le choix de s'aligner sur la politique du Quai d'Orsay. C'est-à-dire on dit, il ne faut rien faire. Moins vous en dites, mieux c'est. Alors que l'expérience Boualem Sansal montre tout à fait le contraire. C'est parce qu'on a parlé, c'est parce qu'on a donné de la valeur et qu'on a monétisé le cas de Boualem Sansal d'une certaine manière que Boualem Sansal a été finalement quelqu'un de gênant au bout d'un certain temps pour le gouvernement algérien. Moi, je pense que si nous n'avions rien fait, Boualem Sansal pourrait être encore aujourd'hui, malheureusement, en prison. C'est pas le cas, parce que tout simplement, il y a eu aussi une mobilisation. Donc, ça fait deux ans, il faut le rappeler, d'ailleurs, que Christophe Glaize est en Algérie. Parce que, d'abord, il a été placé sous contrôle judiciaire. Puis après, il a été présenté devant un tribunal à Tizi Ouzou. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme. Sa peine a été confirmée en appel à 7 ans de prison ferme. Il s'est pourvu en cassation, ce qui était une bêtise. D'ailleurs, moi, personnellement, j'avais déconseillé à l'époque RSF qui m'avait demandé mon avis. J'avais dit surtout, il ne faut pas se pourvoir en cassation parce qu'en vous pourvoyant en cassation, vous donnez un argument supplémentaire aux Algériens pour continuer à le détenir en disant il y a la procédure, on ne peut rien faire. C'est bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il a renoncé à son pourvoi en cassation, mais on ne voit pas la manière dont il pourrait être libéré à brève échéance, sauf si à un moment donné, la mobilisation s'intensifie. Je suis quand même très surpris qu'il n'y ait pas un de nos grands footballeurs
Absolument.
Qui se soit exprimé en faveur de Christophe Glaize. J'ai pas entendu Monsieur Zidane,
Monsieur Benzema,
ou Monsieur Mbappé demander la libération immédiate et sans condition d'un journaliste sportif qui par ailleurs les admire.
C'est un journaliste de SoFoot.
Un journaliste SoFoot
et qui s'est fait enfermer après un reportage
sur le football kabyle. Parce qu'il avait rencontré des proches du mouvement pour l'autodétermination kabyle. Ce qui reste d'ailleurs à démontrer, je ne suis même pas sûr.
Non, c'est l'accusation.
C'est l'accusation. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'est une situation qui apparaît, en effet, aujourd'hui, absolument scandaleuse. Et il y a un double scandale, le fait qu'il soit détenu et le fait que l'on fasse rien. Voilà. On a l'impression qu'on cogère la détention de M. Glaize. Je rappelle un dernier point. Après, Ségolène Royal est allée faire, un selfie avec M. Glaize en prison.
Elle ose tout, comme les autres.
On peut parler quand même d'une certaine forme d'obscénité. Voilà,
oui, c'est gentil.
On peut le dire.
Romaric Sanglier.
Oui, dans la légende, justement, Boualem Sansal semble vraiment donner des explications par rapport à son rejet de la politique macroniste à son égard. Il explique que le nom de Retailleau est allé résonner dans les geôles où il était enfermé, et que justement il reproche au Quai d'Orsay d'avoir appliqué une politique extrêmement diplomatique et molle, et qu'elle n'était pas efficace, et qu'il lui aurait fallu au contraire, voilà. Et alors, il y a aussi cette réception de ce livre, moi, ce qui m'a paru étrange aussi, c'est ce livre a été interprété par les médias officiels comme Boualem est un héros, mais au bout d'un moment, quand il s'énerve contre la manière dont les choses ont été traitées, il délire complètement, c'est sans doute la prison qui l'a fait dérailler. Alors, personne n'a pris au sérieux sa critique de l'intérieur de la politique étrangère française dans ce cas-là, et pourtant elle est argumentée au-delà du fait qu'il a vécu lui dans sa chair, mais aussi qu'il a senti quand même des choses aussi en prison pour percevoir en fait l'efficacité ou l'inefficacité de certaines attitudes, et quelque part on lui a fait même payer France, on lui a fait payer le fait d'avoir parlé, ce qui est quand même une espèce de double peine totalement, voilà. Et donc je veux dire, qu'est-ce que vous pensez d'avoir de cette réaction que je trouve assez dingue après la libération de Boualem Sansal et le scandale, mais l'agacement, le malaise qu'il a créé en France avec ses révélations, et justement, est-ce que vous pensez qu'en effet, comme il le disait, une attitude très dure de la part de la France aurait été efficace et serait aujourd'hui efficace avec Glaize ?
Boualem Sansal tient le discours de tous ceux qui connaissent de près le régime algérien et qui s'opposent au régime algérien. Parler avec quelqu'un comme Kamel Daoud, il dit exactement la même chose que Boualem Sansal. Vous parlez avec Mohamed Sifaoui, il dit exactement la même chose que Boualem Sansal. Vous parlez avec les opposants kabyles, ils disent exactement la même chose que Boualem Sansal. Vous parlez avec quelqu'un comme Saïd Saadi, qui a été le leader du rassemblement démocratique des Kabyles dans les années 90, il dit exactement la même chose. Ce pouvoir ne connaît que le rapport de force. Donc la vraie question, il faut la poser finalement aux Français. Pourquoi, malgré les humiliations dont la France est l'objet matin, midi et soir à Alger, nous continuons à accepter un rapport de force totalement asymétrique et toxique, comme le dit Pierre Vermeuren, l'historien. La relation franco-algérienne est toxique d'ailleurs depuis 1962, mais elle ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui. Donc il y a une véritable énigme du côté français. Et c'est vrai que quand même, les 10 années là, pour le coup de Macron, puisqu'on est à l'heure du bilan dans la relation franco-algérienne, ont atteint un niveau de soumission que l'on n'avait jamais atteint par le passé, y compris avec des pouvoirs de gauche. Donc, il y a quand même une vraie question qui se pose. Quels sont les motifs de cette espèce d'inhibition qui fait que nous n'agissons pas et que nous acceptons tout des Algériens? Ça, c'est pour moi une grande énigme. Il y a un vrai sujet. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de la diaspora algérienne? Est-ce que parce qu'ils ont peur, pour des raisons d'accords de sécurité, que les Algériens ne nous fournissent plus d'informations dans la lutte contre le terrorisme? Mais enfin, ces sujets-là, ils étaient présents il y a 10 ans, ils étaient présents il y a 15 ans. Emmanuel Macron est allé très loin dans le processus dit de repentance, puisqu'il est allé même, avant d'être président la République commettre la faute politique majeure et historique majeure qui consiste à considérer que la colonisation française est assimilable à un crime contre l'humanité, ce qu'elle n'est évidemment pas, en l'occurrence. Donc, ce que ne lui demandait même pas le pouvoir algérien à l'époque. Monsieur Bouteflika n'avait jamais demandé ça. Donc, il ne a fait que les renforcer dans leur discours d'hostilité vis-à-vis de la France. Et puis, alors, comme le discours d'hostilité vis-à-vis de la France est le seul point commun qu'ils ont entre eux au sein du pouvoir, qui est un pouvoir très divisé, ben, ils en profitent. Et ils auraient tort de ne pas pousser l'avantage. Mais la question vient de la France. C'est la France qui est toxique par son attitude, qui renforce cette toxicité de la relation par, finalement, cette attitude, encore une fois, qui est une attitude de pire que de l'accommodement, qui est encore une fois une attitude de soumission.
Alors, on a eu un autre exemple de soumission récemment assez exceptionnel. Alors, donc, nous n'avons pas de... L'Algérie n'a pas d'ambassadeur, n'a pas envoyé d'ambassadeur algérien en France.
Ils auraient chargé d'affaires.
Sinon, le recteur de la Grande Mosquée, qui est plus un perroquet du régime algérien.
Qui est un agent du régime algérien,
Qui est un agent, évidemment. C'est un agent de l'étranger, comme d'autres. Mmh. Et donc, par contre, l'ambassadeur français...
Vous noterez que là, on ne parle pas d'ingérence étrangère, d'ailleurs.
Jamais.
Jamais. Concernant l'Algérie, il n'y a jamais d'ingérence.
C'est jamais... Alors, pourtant, on aurait de quoi dire. Et en revanche, l'ambassadeur français est revenu en Algérie en mai, commémorer les massacres de Sétif pour montrer patte blanche. Et le 14 juillet dernier, donc il y a trois jours, a donné, offert une interview, donc jour de notre fête nationale, a offert une interview à TSA, Tout sur l'Algérie, le média en ligne algérien, où il expliquait qu'il fallait une nouvelle fois recréer une coopération avec l'Algérie, tout ça, et surtout en expliquant qu'il fallait refiler 250 000 visas par an, parce que c'était le cas avant que Boualem Sansal soit en prison, avant que Tebboune dise les OQTF, je ne les reprends pas, et avant que Gley soit en prison, on avait suspendu. Voilà. Sansal a été libéré de force, Gley est toujours en prison, et alors les OQTF, ils sont toujours chez nous. Et ben, l'ambassadeur arrive, et le 14 juillet, jour de notre fête nationale, dit dans sa réception au journal en ligne TSA, on va vous refiler 250 000 visas par an.
Oui, c'est encore une fois, c'est tout à fait révélateur de ce que l'on disait. On va toujours plus loin dans les concessions, que d'ailleurs on ne nous demande pas forcément. En l'occurrence, je rappelle que on nous a dit, parce qu'il y a eu quand même des visites de ministres ces derniers temps, vous avez eu M. Nunez, vous avez eu M. Darmanin, vous avez eu la ministre déléguée aux armées qui est allée à Sétif en tête de cortège, une manifestation explicitement anti-française. On n'avait jamais vu un ministre de la République en tête d'une manifestation anti-française à l'étranger, c'est la première fois, en l'occurrence. Donc on a donné, si vous voulez, des gages tous les jours un peu plus forts vis-à-vis du gouvernement algérien. Et là, on vient d'en donner un nouveau. C'est une attitude... L'ambassadeur ne fait, j'allais dire, qu'exprimer la position officielle de la France, c'est-à-dire celle de M. Macron et celle de M. Barrot. Tout se passe comme si M. Macron voulait absolument renouer une relation avec l'Algérie, en faire un gain politique au prix de concessions qui sont totalement exorbitantes. Et vous avez raison tout à l'heure, je crois que vous avez parlé de barbouzerie également, parce que le régime algérien, je le rappelle, il y a maintenant 2 ans, a essayé d'enlever un influenceur d'opposition algérien, Amir DZ, qui a été enlevé pendant 24 heures, qui a été récemment l'objet, en tout cas, d'une tentative d'assassinat, qui a été libéré dans des conditions totalement mystérieuses. Mais on sait très bien que cet enlèvement a été rendu possible avec l'aide d'un certain nombre d'agents consulaires de l'ambassade d'Algérie. Nous avons aujourd'hui un agent consulaire algérien qui est emprisonné. Le parquet avait demandé sa libération, au moins en tout cas son maintien en France sous contrôle judiciaire. Le juge des libertés l'a refusé parce que, considérant à raison que cet agent n'offrait aucune garantie pour qu'on puisse aujourd'hui le libérer dans les conditions qui permettent de le maintenir sur le territoire français. Mais vous voyez bien que tout est fait, en tout cas manifestement, pour donner toujours plus de satisfaction au pouvoir algérien sans que ça ne nous rapporte quoi que ce soit. Donc, il y a encore une fois une vraie question qui se pose. Je terminerai là-dessus. Monsieur Romaté, l'ambassadeur de France, qui a donné cet entretien à la presse algérienne, n'a pas eu un mot pour Christophe Glaize.
Rien.
Silence absolu. Christophe Glaize n'est pas cité. La question des OQTF n'est pas abordée. On nous dit qu'il y a eu reprise, mais enfin, depuis le début de l'année 2026, il y a eu sur un stock d'OQTF extrêmement important, ce sont des milliers et des milliers d'OQTF algériens, les Algériens ont fourni à la France tout juste 300 laissez-passer consulaires. Voilà la réalité. La réalité de la reprise, paraît-il, du dialogue avec l'Algérie, des résultats de la reprise du dialogue avec l'Algérie. Donc, bon, il y a des questions qui se posent.
Alors, pour que tout ça change, il faut changer donc de politique et donc de gouvernement. Ça tombe bien, une élection présidentielle se profile. Et puis, de toute façon, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, donc il ne sera plus là. Alors, en termes de candidats sur la liste de départ, j'ai arrêté de les compter. À la 26 ou 27, je crois que j'ai arrêté.
Je
crois qu'on l'a dépassé. Ségolène Royal.
Vous avez raison, entre les effectifs, les potentiels.
Ah, on a plus de 27.
Ceux qui vont s'annoncer et qui disent bon que. Mmh.
Moi j'étais à 27 avant Ségolène Royal et Bernard Cazeneuve.
Bernard Cazeneuve, c'est hier.
Voilà, c'est ça. Donc ça, je pense qu'on va exploser les scores. Alors, évidemment, rassurez-vous, il n'y aura pas 70 000 bulletins de vote. Bulletin de vote dans votre bureau de vote, parce que tous ne pourront pas se présenter, bien heureusement. Alors, la campagne a débuté officiellement, c'était un lundi, je crois, non, je sais plus. Bref, 20h sur TF1 avec Marine Le Pen, quand Marine Le Pen annonce sa candidature. Et alors, ce qui était assez intéressant, c'est que tout le monde faisait tous les scénarios possibles, et ce scénario-là n'a jamais été envisagé. Est-ce que Marine Le Pen... est une candidate anti-système?
Alors, c'est une question compliquée, et donc une réponse qui sera forcément plus compliquée. Elle est forcément par l'histoire du parti qui est le sien. Elle a besoin de l'être parce qu'il y a un besoin de rupture, notamment qui est exprimé par le socle sociologique le plus important pour elle, c'est-à-dire les classes populaires, qui veulent une véritable alternance, une alternance de rupture sur tout un tas de sujets. Ensuite, c'est une candidate qui, depuis maintenant plusieurs années, a entrepris un travail de normalisation de son offre politique et qui veut montrer que, comme on le dit aujourd'hui, j'aime pas cette expression, elle est en responsabilité pour exercer le gouvernement. Donc il faut qu'elle soit à la fois, là c'est une forme d'en même temps, si je puis dire, à la fois encore porteuse de cette idée de rupture et de lutte contre un système qui est un système qui finalement ne souhaite pas forcément prendre en compte les aspirations de toute une partie de son électorat, mais en même temps il faut qu'elle rassure une partie d'un électorat dont elle a besoin pour franchir les 50% lors d'un second tour, c'est-à-dire qu'elle montre qu'elle a une forme de respect du fonctionnement des institutions, et donc ça, c'est si vous voulez cet équilibre qu'elle essaye aujourd'hui de construire et qu'elle arrive à peu près à construire. Parce que quand on regarde encore une fois les intentions de vote, elle progresse par exemple à nouveau de manière assez intéressante pour elle dans l'électorat LR. Une partie de l'électorat LR aujourd'hui commence à basculer. Il a déjà basculé pour une grande partie avant, mais ce qui reste de l'électorat LR commence à basculer du côté de Marine Le Pen. Dans l'hypothèse d'un second tour, elle devrait s'affronter à un autre candidat. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, c'est plus évident. Hein, mais même également, si c'était Édouard Philippe.
Et puis, il y a deux données, je trouve, qui vont dans votre sens, qui favorisent effectivement ce mouvement. C'est primo son tandem avec Bardella, qui est quand même, trouve un coup de génie politique et qui lui permet de s'adresser à des électorats différents tout en étant
et
même
qui marche mieux dans ce sens que dans l'autre. Il marche le tandem Marine Le Pen candidate à la présidentielle, Jordan Bardella second, marche mieux dans ce sens vraisemblablement électoralement que si il avait été dans le sens inverse.
Et l'autre élément, c'est qu'en fait le RN est déjà en campagne de second tour, ce qui lui permet quand même, dès à présent, de s'adresser, on a vu la fiche de campagne, d'avoir un discours d'union, de rassemblement, très largement, au-delà des partis. Je crois d'ailleurs que c'est Jordan Bardella qui a dit que son potentiel gouvernement s'ouvrirait à des figures souverainistes de tous les horizons. Donc là-dessus, pour ce qui est de l'ouverture, en tout cas, ils sont dans une configuration parfaitement favorable.
Oui, vous avez raison, en fait, c'est le dispositif, en effet, le ticket, Marine Le Pen, Jordan Bardella, en tout cas, les études d'opinion le montrent, et d'une redoutable efficacité. Alors vous dites qu'ils sont déjà dans le second tour, il faut quand même qu'ils fassent attention. C'est-à-dire qu'il faut gérer d'abord la durée. 9 mois, c'est très long. Surtout 9 mois quand vous êtes favori. Vous savez, c'est le syndrome de l'échappée dans le Tour de France, hein, qui prend beaucoup d'avance. Mais après, il faut qu'il gère par rapport au peloton qui peut revenir. Donc là, en la matière, il y a quand même une question qui se pose. Et deuxièmement, il faut s'attendre vraisemblablement quand même à un retour d'une forme de diabolisation du Rassemblement National. Plus nous approcherons de l'échéance. On a vu quand même que lors des dernières élections législatives de 2024, après un premier tour qui donnait le sentiment qu'ils allaient l'emporter, au moins avec une majorité relative, qu'en quelques jours, ça s'est renversé. Donc il faut encore, je crois, rester prudent quant à la suite des événements.
Et alors, si Emmanuel Macron va partir, il va être encore là le temps de l'élection. Et puis, il semble qu'il souhaite s'accrocher jusqu'au dernier jour et faire tout ce qu'il faut. Bon, comment peut-il peser sur cette élection au-delà de sa propre succession ?
En tout cas, il fera tout pour peser d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est qu'il n'a pas toutes les cartes en main. On voit bien qu'à l'intérieur de son camp, plus on se rapproche de la sortie d'Emmanuel Macron, plus les candidats potentiels vont tout faire pour s'émanciper. Ils l'ont déjà commencé à le faire et s'autonomiser d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron, au regard, j'allais dire, de son âge, de sa trajectoire et de ce qu'on connaît de son caractère, est quelqu'un qui se satisfera que ce soit quelqu'un de son camp qui lui succède, c'est une question que l'on peut aussi se poser, me semble-t-il. Alors je ne dis pas que Emmanuel Macron va faire forcément le jeu de ses opposants les plus farouches, qu'il s'agisse de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, mais cet aspect psychologique doit être pris en compte, je pense, dans la façon dont Emmanuel Macron va se comporter durant cette élection présidentielle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, la difficulté pour ce que l'on appelle le bloc central, moi je préfère parler de bloc historique des partis de gouvernement. C'est-à-dire, pour moi, ça va du Parti Socialiste à LR. La difficulté, c'est que tous sont considérés comme comptables de l'état de la France en 2026. C'est, je crois, le principal atout, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, de la candidature de Marine Le Pen. C'est qu'en effet, encore une fois, ils n'ont pas participé à l'exercice du gouvernement de la France. Et donc ça, personne ne peut les rendre comptables de cette situation.
Et il va y avoir une donnée nouvelle à cette élection, qu'on n'a pas eu aux élections précédentes, c'est l'intelligence artificielle. Parce que Gabriel Attal, par exemple, son troisième poste de dépense pour sa campagne, c'est l'IA. Et alors, non pas que l'IA va changer les tronches et les noms des candidats, mais avec un outil aussi puissant, disons que si on prend l'exemple de Donald Trump en 2016, Donald Trump en 2016 a gagné parce qu'il avait des outils qui permettaient de mesurer très précisément en quel endroit il fallait dire quoi. Et là, Gabriel Attal a un outil encore plus puissant parce que l'IA est passé, et ça permet de savoir au pâté de maison près ce qu'ont voté les gens, ce qu'ils payent comme impôts et ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas.
Alors, pas nouveau. Dès 2008, la campagne d'Obama aux États-Unis, il ne faut jamais l'oublier, le premier à avoir utilisé ce type de technique, alors qui était certes moins sophistiquée qu'elles ne le sont aujourd'hui avec le saut quantique qu'a fait l'intelligence artificielle, qu'on a fait avec l'intelligence artificielle, mais déjà, il disposait, si vous voulez, de grilles d'analyse extrêmement granulaires sur le terrain. D'ailleurs, François Hollande l'avait utilisé des méthodes similaires en 2012. Après, quand même, moi, je reste convaincu que si on laisse de côté l'IA, je pense qu'une élection se joue sur d'autres facteurs et sur d'autres déterminants. C'est la perception du niveau de vie, la perception de la mobilité sociale, la perception de la façon dont les politiques répondent ou non aux grands enjeux que les Français considèrent comme prioritaires, la question de la sécurité, la question de l'immigration, la question du pouvoir d'achat, la question de la protection de l'économie, etc., etc., qui va être absolument déterminant dans l'orientation du vote. Moi, je ne rentrerai pas, si vous voulez, dans cette idée que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle vont faire l'élection. Parce que non, d'abord, c'est très souvent utilisé, en effet, comme un moyen de considérer que, vous avez vu ce rapport oui, sénatorial sur les fameuses ingérences intérieures. Et il faut, je pense, les réseaux sociaux n'ont pas fait gagner Donald Trump en 2016, contrairement à ce qu'on pense. C'est le sentiment de déclassement de toute une partie des classes moyennes américaines qui a été à l'origine de la victoire de Donald Trump. Les réseaux sociaux ont aidé sa communication politique, parce qu'il a pu, j'allais dire, contourner les médias traditionnels, ça c'est une réalité, mais c'est pas ce qu'il a fait gagner.
Merci beaucoup Arnaud Benedetti, donc je pense qu'on vous réinvitera à la rentrée, parce qu'après quelques vacances, on aura la tête plus fraîche, on verra plus clair, peut-être que les candidats aussi, peut-être qu'il y en aura moins, peut-être que certains ont des moments de lucidité sur la plage, sait-on jamais, finalement.
Il y en aura peut-être d'autres.
Peut-être que j'y serai pas.
Il y en aura peut-être d'autres.
Et malheureusement, peut-être d'autres. Merci beaucoup Arnaud Benedetti.
Merci à vous.
Je vous souhaite de belles vacances. D'une petite pause et on va parler de culture avec Olivier Maillard. Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. C'est la dernière pour le Restons Courtois de l'Incorrect. Nous sommes très contents de passer cette dernière avec vous. Et donc, nous recevons Olivier Maillard. Olivier Maillard, bonjour.
Bonjour.
Donc, je rappelle, vous êtes écrivain, essayiste, professeur de cinéma et de littérature en classe prépa depuis une dizaine d'années, docteur en art du spectacle. Vous avez votre thèse d'ailleurs portait sur la représentation du fascisme dans la littérature et le cinéma italien. C'est quand même un thème hyper intéressant, ça donne presque envie de faire une thèse. Vous collaborez dans de nombreuses revues, l'Atelier du Roman, la Revue du Deux Mondes, l'Incorrect évidemment, Philite et j'en passe. Vous avez écrit de nombreux essais sur le cinéma, la littérature. On peut citer un essai particulièrement brillant, Poétique de Tom Cruise, et ça je vous en dis, personne n'écrit ce genre d'essai, et ça vous embouche un coin quand vous l'avez fermé. Et vous avez donc cofondé l'arrière-cuisine des mousquetaires l'année dernière, donc si je ne me trompe pas, donc alors chers auditeurs, si vous tapez ça, vous n'allez pas le trouver directement, le mieux c'est de taper arrière-cuisine.com, qui est une revue en ligne culturelle. Mais avant de parler de tout ça, nous avons une tradition, dans cette émission, c'est celle de passer nos invités à la question. Alors, Olivier Maillard, D'Artagnan, oui. Porthos, Athos ou Aramis? Vous préférez qui?
Alors, d'après le partage des tâches, on va dire, sur le, entre membres du site, puisqu'on est quatre créateurs, j'aurai le rôle de D'Artagnan parce que je suis le plus jeune.
Super, évidemment, il ne veut pas dire Porthos, normal quoi.
Alors, il se trouve que j'ai lu en version abrégée avec mon fils, parce qu'il est jeune, les trois ouvrages, et j'avoue que si j'ai une préférence, c'est plutôt pour Athos. Mais voilà, on ne m'a pas donné le choix, on m'a dit tu feras D'Artagnan, donc va pour D'Artagnan.
Alors qu'en fait, à la fin, quand on termine le Vicomte, le mieux c'était quand même Aramis. Le livre que vous détestez et que tout le monde adore.
Alors ça, c'est justement un sujet de discorde avec mes camarades. J'avoue que je n'ai jamais réussi à aimer les essais de Montaigne. J'ai toujours le sentiment qu'il multiplie les citations latines et dans d'autres langues et qu'il fait une ou deux phrases entre chaque citation, et je trouve ça à peu près illisible. Et à chaque fois, je me fais copieusement enguirlander par mes collègues parce que j'ai jamais réussi à entrer dedans.
La critique que vous regrettez d'avoir écrit.
Alors, ça va faire une vingtaine d'années que j'écris de la critique. Je n'ai pas vraiment de regrets, mais j'ai souvenir d'une critique qui avait créé une sorte de mini-emballement parce que l'auteur qui était critiqué n'en était pas content, parce qu'il n'était pas content que j'ai dit du mal de son livre.
Alors, c'est étonnant, c'est fréquent.
Mais il était poète, et visiblement, ça ne se fait pas en poésie. Mais je ne regrette pas pour autant de l'avoir écrit, mais j'ai été surpris par l'emballement que ça avait suscité.
C'était qui cet auteur?
Oui.
Parce que c'est bien, mais on veut savoir
on
qui c'est.
On veut des noms.
Ah, il s'appelle Ratto.
D'accord. Celle que vous regrettez d'avoir écrite parce que vous trouvez aujourd'hui, vous vous êtes trouvé trop charitable.
Alors là, je ne vais pas pouvoir donner de nom, donc vous n'allez pas être content. Mais alors, j'ai jamais écrit de critique sur des livres que je n'avais pas lus. Mais par contre, je me souviens, on m'avait demandé pour un dossier de l'atelier une recension d'un livre dont j'avais vraiment rien à dire, donc j'ai réussi à faire tout mon texte à peu près sans parler du livre. Et ça, bon, voilà, c'était une manière de contourner la difficulté, on va dire.
Romaric Songard sait très bien faire ça aussi. S'il ne fallait garder qu'un seul film de Tom Cruise, ce serait lequel?
Je me sens en pleine solidarité avec Romaric Songard sur ce
Olivier.
Point. S'il fallait garder qu'un seul film de Tom Cruise, c'est dur, ça. Je pense quand même à Eyes Wide Shut, parce que c'est peut-être le plus beau, et j'aime beaucoup ce que Tom Cruise y fait, en plus, outre le fait que c'est un très beau film.
La pire plaie de la littérature aujourd'hui?
Alors, ben là, je pense que Romaric Songard, pareil, sera d'accord. Je pense que c'est l'exhibitionnisme moral, je dirais. C'est pas exactement la littérature de témoignage, mais c'est voilà
c'est bien formé,
la manière de parler de soi, mais pour se montrer de manière valorisante et donc de faire honte aux autres qui ne sont pas aussi bons et moraux que nous.
Le dernier livre qui vous est tombé des mains.
Alors, je vais encore décevoir les gens. Je pense que c'est Salammbô. J'arrive pas à le finir.
Ah, parce que vous avez pas lu Olivia Ruiz, c'est pour ça.
Mais ça commence merveilleusement bien, Salammbô, et ça s'étire énormément comme un péplum littéraire assez kitsch quand même, extraordinairement bien réalisé, mais assez kitsch. Je comprends tout à fait, Olivier.
C'est exactement ça, c'est qu'on est bluffé par la technique et le savoir-faire, et en même temps, on a l'impression de voir des mannequins avec des costumes dans des décors peints.
Oui, je suis d'accord.
Et le dernier film qui vous a flingué la rétine?
Alors, j'ai cherché, mais alors là, pour le coup, je suis vraiment d'une faiblesse très coupable avec le cinéma, parce que même les pires... J'ai vu récemment En eau très très trouble avec Jason Statham, où il combat des requins géants qui surgissent du fond des océans.
Les mégalodons.
Voilà, les mégalodons, un connaisseur. je dois dire que j'ai trouvé le film absolument formidable. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que c'est très difficile pour moi de ne trouver aucune qualité à un film, même le plus infâme.
Parce que vous n'avez pas vu En eau trouble 2.
Mais En eau très très trouble, c'est pas En eau trouble 2.
Bah, il y a le premier, le 2. Voilà, alors je ne sais plus lequel est très très... Peut-être
le
que 2, le très
si
très,
c'est celui qui sur l'île de vacanciers, c'est celui que j'ai vu, je l'ai trouvé très bon.
Ah bon, vous n'avez pas commencé par le 1. Merci Olivier Maillard. Commençons par donc, cette arrière-cuisine des mousquetaires, lancée en 2025, donc il y a un an, si je ne me trompe pas.
Alors, l'idée traînait depuis longtemps, en fait.
Alors, racontez-nous l'origine, commencé... la genèse.
Alors, à l'origine, c'est donc on est quatre camarades qui se, enfin on se connaît par l'atelier du roman. Donc il y a Cyril Depince, Thierry Gilibeuf, Patrice Jean et moi-même. Et l'idée vient de Cyril Depince, qui est à l'origine du projet, qui a beaucoup poussé. Mais on est, disons que ça traîne en longueur depuis 2 ans, mais ça a commencé vraiment à exister l'année dernière parce qu'on est pas très doué en informatique. Et donc l'idée était dans l'air, mais avant qu'on réussisse à trouver quelqu'un qui veuille bien le faire pour nous, en fait, le site n'était qu'une idée.
Parce que c'est une revue, donc, en ligne.
Oui, c'est ça.
Et c'est une revue en ligne qui fonctionne comment ? Est-ce que c'est gratuit ? C'est sur abonnement ? Comment ça marche ?
Alors, on peut s'abonner, mais tout est gratuit. Les articles sont disponibles directement. Ensuite, on peut être abonné pour s'informer des nouveaux articles. On peut pas dire qu'on soit encore tout à fait régulier dans le rythme de parution. Il peut y avoir 3 ou 4 articles la même semaine et puis aucun pendant 15 jours. Et l'idée, c'était de faire une revue littéraire et culturelle c'est pour ça qu'on est allé vers les mousquetaires, où il y a une certaine liberté, c'est-à-dire on puisse faire un peu ce qu'on voulait. On écrivait tous déjà dans des revues, moi y compris, comme vous l'avez rappelé au début, mais où là, on mettait ce qui nous faisait plaisir et... Sans nécessité, ni de régularité, ni de sujet imposé, ni de quoi que ce soit.
Alors, quand on regarde les différentes pages, en tout cas les différents filtres, vous avez donc le roman, l'essai, la poésie, le film, le théâtre, aussi des restaurants, puis vous avez une rubrique oui. Literie et oreiller, et une rubrique Otis Redding.
Oui, j'ai besoin d'éclairage sur la rubrique
alors,
Otis Redding.
Alors, restaurant, déjà, on se dit, ah bon. Alors, Literie et oreiller, Otis Redding, il faut qu'on nous explique, là.
Alors, Literie et oreiller, dans mon souvenir, c'est à Patrice Jean de s'en occuper, mais il a pour le moment pas encore beaucoup
en
nourri cette rubrique, mais il fait beaucoup déjà parce qu'il publie un journal de ses lectures depuis plusieurs mois avec beaucoup de régularité, pour le coup, donc on va pas lui jeter la pierre. Et en ce qui concerne Otis Redding, c'est une idée, je pense, de Cyril. L'idée, c'est le renvoi d'ascenseur assumé, en fait, d'où Otis, la marque d'ascenseur. Et donc, c'est l'idée qu'on consacre, comme toutes les revues et tous les magazines le font, mais le faire de manière avouée. C'est-à-dire, c'est une revue où on parlerait des livres des uns et des autres entre nous. Donc, elle n'a pas encore d'article, ceci dit, mais l'idée, voilà, c'était la rubrique du renvoi d'ascenseur.
Mais non, j'en ai lu deux, cher Olivier.
Ah bon, je suis même pas au courant.
Et du coup, c'est pour ça que je ne comprenais pas, parce que, il y a un des articles...
Sur Otis Redding mais...
ouais,
ah oui, vous avez 2 articles, vous avez un sur Faiz Again, roman d'humanité.
C'est abominable, Faiz Again.
Et un sur La Chambre des Dupes, un roman fascinant de Camille Pascal, selon les 2 derniers articles. Les deux datent de janvier 2025, je précise.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la bonne rubrique, à mon avis. On a encore quelques problèmes techniques à régler, à mon avis.
Et donc, vous avez également aussi la poésie, les nouvelles, la philosophie. Bref, en fait, c'est très très large, quoi. Vous avez une...
Oui, on couvre tout le champ de la cloque. Un peu comme Montaigne, j'ai envie de dire, puisqu'on en a
avec moins ça. De citations et de prétentions. Il y a
avec
aussi
moins de latin, moins d'hébreu et plus de liens intertextes, voilà.
Et puis vous faites des débats, alors ça je trouve c'est très bien, vous avez lancé une espèce de ring de boxe entre Patrice Jean et Bruno Lafourcade, que nous avons invité, en tout cas Patrice Jean, dans cette émission au début de l'année. Et Bruno Lafourcade est passé aussi d'ailleurs plusieurs fois, pas dans cette émission, mais sur Radio Courtoisie. Et nous l'avons aussi, ce sont deux aussi, figures qui apparaissent souvent dans les pages de l'Incorrect, que nos lecteurs connaissent. Vous avez lancé une espèce de ring de boxe où ces deux auteurs qui s'estiment mutuellement beaucoup et qui se lisent beaucoup se déchirent. Je trouve ça très original et en plus, ça se fait peu, même dans les revues. Ce sont des idées de débat, pas brutal, mais je dirais à fleurer, non moucheté sur des sujets comme ça. Je trouve ça très original comme idée. Est-ce que c'est venu après une dispute avinée au début du lancement de la revue ou comment avez-vous eu cette idée ?
Alors, c'est du côté de Patrice. Et pas forcément d'une dispute, mais c'est vrai que comme il a une correspondance qui connaît bien Bruno Lafourcade et qui s'écrivent régulièrement, c'était une proposition, voilà, de poursuivre ce qu'ils avaient un peu fait dans leur. Il y a un volume de correspondance qui est paru l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, Les Mauvais Fils. et de poursuivre la chose en ligne par de manière un peu par épisode. Et effectivement, les démarrages avaient même un peu secoué, un peu ému certains lecteurs de Patrice Jean qui trouvaient que ce voyou Lafourcade était vraiment très agressif et très méchant.
C'est vrai.
Et ce qui fait qu'à un moment, Lafourcade a dû expliquer non, mais c'est entendu, ça fait partie du principe de ce qu'on met en place ici. Et de se faire toujours l'avocat du diable face à l'autre, de ne pas hésiter à l'attaquer, à le critiquer. Et effectivement, ben ça, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on voit plus, qui se fait plus vraiment. Mais comme effectivement, on a créé avec ce site un espace où on peut faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs, on s'est permis ça.
Alors le site est vous êtes vous-même un critique, et donc c'est un site culturel, une revue culturelle numérique qui propose des critiques. C'est assez audacieux de proposer cela aujourd'hui, à l'heure où si tout le monde veut donner son avis et se permet de donner son avis, plus grand monde ne lit de critiques.
Alors ça, c'est sûr, oui, que l'avis va plus vite quand on met un pouce bleu ou un nombre d'étoiles ou des choses comme ça, ou un commentaire de deux lignes, alors que nos articles sont généralement, c'est l'avantage d'Internet par rapport à la presse papier, assez longs. Ensuite, c'est tous parce qu'on y prend plaisir, hein. On est tous des grands lecteurs, tous les quatre, et puis je dis les quatre, mais en fait on a déjà d'autres collaborateurs, hein, Charles Villalon ou d'autres qui ont écrit dans la revue, le principe est qu'on fait ça pour se faire plaisir, donc effectivement c'est pas forcément ce qui est le plus à la mode à l'heure actuelle. Mais on n'y a pas tellement réfléchi ensuite en termes de vivabilité ou de durabilité, on va dire. C'est ça qui nous est, ça nous faisait plaisir de le faire, ça nous amusait. Et puis il y a des tas de choses qui parfois sont un peu des pruries, des petits agacements, des choses qui nous démangent. Remarquez, ça fait longtemps, mais Thierry nous a promis un article depuis longtemps sur les trois mousquetaires, mais version féminine, là, qui était paru l'an dernier. Il voulait lancer une nouvelle rubrique qui soit la critique, non pas du film, parce qu'il n'a pas eu le courage d'aller le voir, mais une critique de la bande-annonce. Mais il l'a pas encore fait.
Nous avions un critique à l'incorrect qui s'était spécialisé en critique des bandes-annonces, mais je ne dénoncerai pas la personne.
Mais pour avoir vu le film qui m'a flingué une demi-rétine, la bande-annonce suffit. Déjà suffisamment affligeante. Mais alors, il y a quelque chose... comment analysez-vous le fait que la critique disparaît de plus en plus? Alors ça fait longtemps, mais ça commence à devenir carrément un objet rare, un objet en voie de disparition, de la presse généraliste. Et pour lire des critiques, maintenant on les retrouve dans les revues spécialisées anciennes ou nouvelles.
Alors ça, c'est très vrai si on prend les suppléments littéraires, par exemple les grands quotidiens, qui ont pendant des décennies eu une très bonne tradition, que ce soit le Figaro littéraire, les pages littéraires de Libération, ou dans le monde des livres, etc., des pages d'excellente qualité, et ça se raréfie, que ce soit en nombre de pages ou même dans la tonalité, qui est globalement... uniquement élogieuse. Par exemple, j'ai un ami qui tenait une chronique de poésie, c'était dans le magazine littéraire ou dans Lire, et à un moment on lui avait dit non, on vous donne déjà tellement de place, tellement peu de place pour la poésie, vous n'allez pas en plus parfois dire du mal des livres, vous ne parlez que de ce qui est bien. Donc il y a une espèce de sirop de glucose, là, de bienfaisance, de côté conciliant où on élimine toute critique possible, ce qui est idiot parce que c'est aussi une manière de dessiner le paysage littéraire que de mener des critiques négatives de temps en temps. Il ne faut pas faire que ça non plus, on est tous évidemment capables d'enthousiasme et Dieu merci. Mais effectivement, ça c'est un constat qu'on ne peut que partager. Visiblement, de toute manière, le nombre de lecteurs baisse d'une manière générale, que ce soit celui des livres ou celui de la presse. La critique littéraire fait aussi moins recette. Et puis, je pense aussi que le simple fait de lire de manière un peu sérieuse, c'est-à-dire de ne pas se contenter de quelques lignes élogieuses ou d'un résumé, etc., n'est plus dans les habitudes. Peut-être aussi que le passage à l'oralité par les réseaux sociaux, les trucs genre YouTube, Instagram, etc., font que l'objet de la critique, qui était quand même un objet écrit pendant très longtemps et qui a eu son importance comme objet écrit, tend à diminuer.
Romaric Sangers.
Oui, sur ce sujet-là, je suis aussi étonné, cher Olivier, de la de l'inflation des bookstagrammeurs et des bookstagrammeuses, d'ailleurs, en grande partie. Enfin, étonné, d'ailleurs, pourquoi pas, moi, en soi, je suis pas du tout contre le principe, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça participe à cette espèce de, d'incompréhension, ai-je l'impression du moins, de la nouvelle génération, de l'exercice critique? Parce que d'abord, ces bookstagrammeurs, en général, sont payés, en fait, par, par service de presse, ou par, enfin, comme les influenceurs, en fait, ils sont sponsorisés par les maisons d'édition, dont ils doivent, enfin, qui leur envoient des livres, dont ils doivent, par contrat même, dire du bien. C'est-à-dire, c'est plus du tout de la critique, c'est du service après-vente animé par des jeunes gens, qui sont, ma foi, charmants, qui savent se présenter, enfin, en gros, qui sont sexy et qui disent du bien des bouquins qu'on leur a demandé de mettre en œuvre, mais qui ne font pas du tout un exercice de critique. Et d'ailleurs, en général, quand ils disent du bien d'un livre, c'est toujours avec une logique de subjective d'expérience vécue. C'est-à-dire, c'est pas un objet qu'on va détailler, c'est voilà, j'ai ressenti ça, il s'est passé ça. C'est un parcours émotionnel, comme ça, qui est un peu un travers un peu typique de cette génération. Et puis, lié à cette pratique, l'idée aussi qu'on a l'impression aujourd'hui que l'exercice critique est vécu comme quelque chose de moralement dégueulasse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dire du mal d'un livre, ça serait attaquer directement les personnes et le droit de la personne. Et puis, et donc, ça serait quelque part attaquer la dignité de la personne, celle au nom de quoi on va bientôt euthanasier les gens d'ailleurs. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais enfin voilà, que pensez-vous de ces nouveaux aspects qui donnent l'impression qu'en fait, l'exercice critique est de plus en plus difficile, simplement même à être compris comme exercice?
Alors, sur le premier point, je suis tout à fait d'accord sur la dimension de publicité déguisée qui passe par la pléthore, pour le coup, de bookstagram, de podcasts, etc., qui existent, et où souvent, d'ailleurs, quand on se retrouve confronté dans un lancement de livre, où j'en ai croisé il y a quelques mois, je me souviens, une jeune femme qui était par ailleurs extrêmement sympathique, je suis malheureusement obligé de le reconnaître, tout à fait sympathique, mais qui m'expliquait que voilà, elle préparait quelque chose sur Virginia Woolf pour dénoncer l'antisémitisme de Virginia Woolf, et moi qui m'apprêtais à lui dire, mais Virginia Woolf, c'est vraiment c'est une de mes romancières préférées, enfin écrivain, tout sexe confondu préféré, j'ai une immense admiration pour elle, etc. Et alors, je m'apprêtais à lui demander, mais qu'est-ce que vous avez lu d'elle? Et là, elle m'a dit, non, mais bon, j'ai lu Une chambre à soi, parce que c'est la lecture obligatoire pour toute féministe actuelle, et pourtant, je sais que c'est pas le meilleur livre de Virginia Woolf, mais Les Vagues, c'est trop compliqué, Mrs. Dalloway, c'est dur à lire, etc. Donc, en plus, elle avait même pas lu tellement son objet. Donc, ensuite, il est tout à fait possible qu'il y ait des phrases antisémites dans l'œuvre. J'ai pas lu toute l'œuvre de Virginia Woolf, et vu l'époque, le contexte, ça m'étonnerait pas, et ce serait tout à fait possible. Mais disons que voilà, il y a une espèce de superficialité souriante et sympathique qui fait qu'on peut démolir quelqu'un de l'envergure de Virginia Woolf, qui a plus fait pour la littérature que toutes les podcasteuses du monde, pour exister, etc. Et ensuite, l'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est que je pense aussi, alors c'est vrai qu'il y a le côté ça me met mal à l'aise, c'est pas ok, etc., de dire du mal, en fait, critiquer une œuvre, c'est s'attaquer à la personne, etc., qui est une réaction d'enfant, en fait, mais dans des corps d'adultes, ce qui est un peu décontenançant quand on voit des gens raisonner comme ça, puisque l'acte critique, effectivement, suppose qu'on puisse émettre un avis négatif sur une œuvre, même si la critique a toujours tort, évidemment, par rapport au créateur, mais bon, elle aide aussi le créateur à créer, et ils sont quand même partenaires dans l'histoire. Et puis, je pense aussi que le fait de ne plus passer par le support de l'écriture, par le moyen de l'écriture, qui est quand même aussi un moyen pour l'auteur de la critique, de s'obliger à ne pas être dans l'instantanéité, dans la seule spontanéité, de réfléchir à sa phrase, de la relire, de la corriger avant de l'envoyer, etc. Tous éléments, enfin, que quelqu'un comme Barthes, par exemple, qui n'est pas encore attaqué, mais qui le sera sans doute d'ici quelques décennies, dont il a très bien parlé, qui fait qu'on arrive à trouver une voie et une manière d'approcher l'œuvre qui ne tue pas du tout la spontanéité et la sensibilité, mais qui permet de s'expliquer à soi-même ce qu'on a ressenti face à l'œuvre, que ce soit de l'admiration ou de la détestation ou tout l'éventail entre les deux. Et ce passage par l'écriture étant de plus en plus facilement gommé, on est effectivement dans le pur affect. Donc, on est dans le « j'aime pas », dans « ça me met mal à l'aise », et donc on arrive à des, voilà, à des, des choses assez pauvres et dont il restera rien parce qu'on est dans du bavardage publicitaire et émotionnel.
Alors on avait aujourd'hui, c'est vrai que les prescripteurs sont sur Internet, sont des influenceurs et c'est pourquoi beaucoup dans l'art, dans le domaine de la culture vont chez les influenceurs. Un exemple dans le cinéma, pendant les trois dernières années, le sponsor principal du Festival de Cannes était Meta, cette année c'est TikTok. Et si vous regardez la promotion des films, ils vont plus en télé, ou très rarement, ils vont encore moins dans la presse généraliste. Alors la presse spécialisée, bon, ils peuvent faire la une de cahier de temps en temps, mais ils vont dans les réseaux sociaux, dans les chaînes qui sont dans les créateurs de contenu qui sont à cheval entre la presse pour certains, ou carrément la promotion pour d'autres, et c'est là où on fait vendre. Et je vous propose deux pistes. Une optimiste, une négative. La piste négative, c'est le principe des réseaux sociaux, c'est une communauté. Et donc, l'attaché de presse, ou le distributeur, ou l'éditeur, envoie l'artiste, l'écrivain, ou le réalisateur, ou l'acteur, dans tel ou tel type de réseaux sociaux ou de créateurs de contenu, parce que ça correspond à la communauté. Et donc, c'est comme ça que le film ou le livre va être vendu. Mais la piste, le futur négatif, peut-être celui-ci, en tout cas j'aimerais bien votre avis, est-ce que ça ne va pas pousser les artistes à écrire ou créer en pensant à la communauté qu'ils vont toucher? C'est-à-dire qu'ils vont communautariser eux-mêmes leur œuvre pour pouvoir vendre derrière. Ça c'est la piste négative, j'aimerais bien avoir votre avis, et ensuite je vous propose une piste optimiste.
Alors, pour la littérature, à mon avis, c'est tout à fait faisable et c'est peut-être déjà le cas. C'est-à-dire qu'on a une forme de segmentation du marché à laquelle concourent ces dispositifs propres aux réseaux sociaux, qui fait que on sait voilà déjà que on va pas viser tel lectorat, tel autre. Ça peut même être affirmé d'ailleurs. Je n'écris pas pour un tel, je n'écris pas pour ce type de public, etc. Pour le cinéma, c'est plus, ou pour le théâtre, c'est qu'ils sont quand même des arts collectifs, enfin qui s'expriment, qui sont fabriqués de manière collective et qui s'adressent normalement à des collectifs. C'est la prudence élémentaire, notamment dans le cinéma hollywoodien classique, par exemple, ou dans d'autres cinémas commerciaux, je dis ça sans jugement de valeur, faisait qu'au contraire, il fallait gommer les aspérités pour éviter les effets communautarisants, même s'il y a pu y avoir des films. Y compris en France, hein, d'ailleurs, un cinéma provençal ou des choses comme ça, ou aux États-Unis, des cinémas destinés à telle ou telle communauté, parce que ça veut dire qu'on se prive d'une partie du public, donc de recettes possibles. Mais non, moi, ce qui me frappe, en tout cas, c'est effectivement dans ces dispositifs-là, c'est la brièveté du temps de parole. C'est comme on est toujours dans des choses très hachées et très clippées. C'est comme dans le, évidemment, tout le monde parle tout le temps de ce film, mais peut-être à raison, le film Idiocratie, où il reste plus que des mini-sketchs de 5 secondes. C'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de place pour le déploiement d'un propos ou d'une pensée. Dès que quelqu'un ne parle plus d'une minute, on est surpris, en fait, maintenant, de son film ou de son roman ou de sa pièce de théâtre ou de son poème.
Alors, sur le cinéma, il y a quand même eu Black Panther, super production hollywoodienne, et pour le coup, et dans sa création, et encore plus dans la promotion, était un film ultra communautaire et vendu que au noir. Ça a été présenté comme tel.
Oui, alors mais ça rejoint parce qu'il y avait eu la Blaxploitation dans les années 70, donc il y a eu des moments comme ça. Et en même temps, il y a toujours un débordement par rapport au public visé. On ne peut pas totalement priver, disons, on ne fait pas encore de ségrégation à l'entrée des cinémas pour empêcher les gens de voir tel ou tel film. Mais oui, ça a pu. Mais enfin, j'ai pas vu Black Panther, pour être honnête, donc j'ai pas vu le film. Mais je pense qu'il a malgré tout touché, je crois qu'il a assez bien marché, un public plus vaste que le seul public nord-américain, par exemple.
Alors, la version optimiste. Disons que si l'ancêtre d'Internet, c'est la télé, on peut comparer avec l'évolution de la mise en avant de la culture dans la télévision. Au début, il y avait de la critique, ça s'empoignait, on se rappelle Jean-Yves Dernalier qui déchirait le bouquin ou qui le jetait, voilà. Il y a eu cette critique, et puis ensuite, on a basculé dans la promotion, où les gens venaient faire la promo, Pivot a basculé comme ça. Ensuite, il y a les émissions de tirer addition qui ont plus mélangé le politique, la prostituée avec l'écrivain, et c'était que de la promotion. Et il y a eu Ruquier, qui était quand même l'émission prescriptrice de livres. Quoi. Quand vous vouliez vendre un livre, vous alliez chez Ardisson et ensuite vous alliez chez Ruquier. Et Ruquier a explosé, a cartonné parce qu'il y avait le duo Zemmour et Nolo qui, et Zemmour et Nolo nous le racontaient, c'est nous, notre but, c'était de montrer qu'il y avait une hiérarchie, une verticalité et que tout ne se valait pas. Et donc, on avait des gens qui venaient présenter leurs livres ou leurs films pensant faire une promo habituelle et se faisaient laminer en direct. Ce qui n'empêchait pas les distributeurs, les éditeurs de renvoyer d'autres écrivains parce que malgré tout, ça marchait. Mais le public était demandeur de ça. C'est-à-dire, enfin, il y avait de la critique, enfin, il y avait de la vérité. Et donc, la version positive, c'est qu'on peut se dire après les internets qui vont faire que de la promotion et que de la mise en avant avec les créateurs de contenu, peut-être que les gens vont se lasser, vont vouloir un peu de vérité, ça va être le retour de la vraie critique.
Et le triomphe des mousquetaires.
Je pense qu'il y en a déjà, de toute manière, des gens qui vont attaquer tel ou tel, etc. À la limite, moi, le côté positif ou négatif, je pense qu'on le retrouvera. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la possibilité d'avoir un discours articulé d'une certaine dimension, quoi. C'est-à-dire, on est quand même sur des médias, qui privilégient les formats courts et qui vont vers le raccourcissement de l'attention, de la capacité à emmagasiner ou à se remémorer quelque chose d'un peu long. Et là, pour le coup, on peut s'inquiéter. C'est d'ailleurs amusant, là, en ce moment, on est en plein, alors je ne l'ai pas encore vu, mais dans la promotion pour le film de Nolan, là, de
l'Odyssée,
le film dure 3 heures, et on n'en voit que des clips de d'une minute. C'est-à-dire qu'on a des types qui nous expliquent à quel point c'est génial, à quel point il est formidable, il a utilisé des grosses caméras, etc., etc., mais extrêmement brève, alors que lui, et Dieu sait que je ne suis pas très fan de son cinéma, même si j'aime bien certains de ses films, il fait des films quand même qui s'éternisent, pour le coup. C'est ça qui est, et il tient à la salle, en plus. Ça fait partie de ses qualités. Il tient à la pellicule, il tient à la salle, il tient à la présence réelle plutôt qu'aux effets numériques, etc. Et en même temps, il est quand même obligé de pactiser à un moment avec l'époque en se cédant à cette promotion de la brièveté.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, il est 19h passé, le temps d'un petit message et on se retrouve tout de suite après.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois, 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Olivier Maillard qui vient nous parler de son arrière-cuisine des mousquetaires, donc une revue numérique, donc en ligne et gratuite, donc accessible à tous, culturelle. Mais vous savez qu'également à 19h, c'est l'heure de la chronique de Romaric Sangars. Alors, cher Romaric, c'est la dernière émission de l'année et vous nous proposez donc un bilan de fin de saison.
Oui, cher Arthur, je vais essayer du moins. C'est un bilan qui ressemble un peu au diagnostic d'une catastrophe. A priori, en tout cas, on a parlé plusieurs fois ici de la chute du marché éditorial. Olivier Maillard le rappelait d'ailleurs aussi tout à l'heure au début de notre conversation. La librairie Gibert menacée de fermeture judiciaire, je ne sais plus quels sont les termes juridiques là-dessus. Un nombre de librairies qui s'apprêtent à fermer l'année prochaine, très important. 25% de ventes en moins dans l'année qui vient de s'écouler. Un développement du marché de l'occasion qui a l'ennui de ne payer ni les éditeurs ni les auteurs. Le problème du marché de l'occasion, c'est ça, c'est qu'il ne soutient absolument pas la création littéraire, puisqu'il ne rétribue que le libraire, mais pas les autres acteurs de la chaîne du livre. Le triomphe, l'effet compensatoire dans cette chute de la lecture et de l'achat de livres, de la new romance, de la dark romance et de la fantasy, toute cette littérature fantasmatique et infantile qui n'a pas du tout la prétention de décrire le monde. Mon mauvais esprit vous dirait que finalement cette littérature qui se vit uniquement comme refuge pour geeks inadaptés ou pour sédentaires frustrés vivant des aventures par procuration depuis le Covid, ou pour jeunes femmes en manque de virilité qui compensent dans l'imaginaire, hein, c'est le cas de la dark romance, que finalement cette littérature, cette bulle un peu grotesque n'est peut-être qu'une aggravation de tendances déjà lourdes dans la littérature blanche classique qui déjà était une littérature, qui ne s'intéresse plus vraiment au réel, qui est une littérature fantaisie, on va dire idéologique, mais qui n'a pas qui ne prend pas beaucoup de risques et qui était déjà quelque part dans une dans cette démarche là. Il y a une cause précise donc à cette dérive. On est dans une littérature de plus en plus de subjectivité et d'idéologie. La littérature n'est plus vue aussi d'une manière générale comme une science dure. C'est quelque chose d'ailleurs que notre ami Patrice Jean, qui participe à, qui est l'un des mousquetaires dont nous recevons ici D'Artagnan, on parle souvent de cette dévaluation finalement de la littérature. C'est d'une manière générale d'ailleurs des anciennes humanités. C'est-à-dire qu'on ne prend plus vraiment au sérieux finalement la littérature, les arts, l'histoire. Tout le monde est maintenant dirigé par des ingénieurs. Donc finalement, si la littérature n'est plus qu'un divertissement compensatoire, fantasmatique, eh bien allons jusqu'au bout, ne faisons plus que de la fantasy, la dark romance. Il y a ces tendances lourdes derrière. Pour continuer sur ce bilan a priori catastrophique, il y a évidemment la révolution de l'IA qu'on a vécue vraiment cette année, ce qui n'était pas aussi menaçante les années précédentes, du risque que cela fait courir aux artistes. Nous avons assisté au premier tube créé par IA, n'est-ce pas ? Il y a une jeune femme qui a prompté une espèce de soupe dégueulasse qui a eu un succès fulgurant. Évidemment, elle ne connaît ni le solfège ni aucun instrument de musique, et c'est juste une espèce de coup de dé qui a abouti sur un succès inespéré qu'on ne sait pas trop comment rétribuer, puisque du coup comment la considérer elle-même comme autrice de quelque chose qui a été fabriqué par la machine. Mais en même temps, encore une fois, ceci ne répond à finalement une tendance lourde d'une sous-culture de masse qui devient de la sous-culture, d'une intelligence qui produisait déjà des musiques de manière artificielle, enfin d'une intelligence artificielle qui est déjà artificielle avant l'intelligence artificielle, un assemblage de clichés qui produit une efficacité primaire chez un public totalement dénué de curiosité. Finalement, l'IA répond à ça, poursuit ça, enfin fait exploser ces tendances lourdes. On a parlé des recensions de livres elles-mêmes suspectes d'avoir été rédigées par l'IA. On parlait tout à l'heure de ces recensions d'Olivier Maillard qui avait réussi à faire une recension sur un livre sans parler, sans évoquer du livre. Sophia Aram a récemment dénoncé, entre guillemets, dans l'article de Lire, une recension du livre de notre ami Pierre Valentin qui semblait avoir été rédigé par l'IA dans la manière dont elle avait constitué, elle avait été même écrite. C'est encore un fruit d'une tendance lourde, notamment au niveau de la critique, la disparition de la critique dans la plupart des magazines, la dévalorisation totale, et puis le fait aussi que ce ne soit pas payé, que l'espace soit réduit, ce qui fait qu'à la fin, vous avez des journalistes qui sont obligés de... Pourquoi lirait-il 400 pages, passerait-il 20 heures pour des recensions dont la taille est tellement réduite qu'à la fin, on ne leur paiera jamais ces heures de lecture, ça devient totalement démesuré. Donc forcément qu'au bout d'un moment, si vous voulez, au bout du système économique, que ce soit l'IA qui fasse la critique, ça devient une nécessité économique, presque, même si par ailleurs, là j'aurais des raisons d'espérer, dans le sens où la critique est un endroit où l'IA ne pourra pas vraiment prendre le pas sur l'humain, puisqu'on a besoin quand même d'un prisme identifiable pour savoir quoi penser d'un livre. Il faut qu'une sensibilité, qu'une personne incarnée en fait donne son avis pour qu'on puisse se repérer par rapport à cet avis. Si c'est un avis complètement abstrait ou neutre, ça ne marche plus en fait comme médiation culturelle. Ce fut enfin une année où le milieu culturel s'est présenté comme assiégé par des milliardaires de droite, menacé dans une liberté qu'on n'a pourtant pas vu utiliser depuis au moins 20 ans. Tout un écosystème qui fonctionne sur la subvention et l'entre-soi idéologique s'est vu inquiet de perdre et son entre-soi et ses subventions, sans que cet entre-soi idéologique, bien que cet entre-soi idéologique soit aujourd'hui en décalage complet avec le reste de la population, et que ces subventions traduisent un gaspillage assez délirant d'argent public qui ne produit pas les chefs-d'œuvre devant lesquels nous aimerions tous nous extasier. Et donc c'est aussi quelque chose qui a explosé un peu cette année. Le clientélisme, le renvoi d'ascenseur, le féodalisme de certaines institutions devient de plus en plus visible, surtout au vu de sa stérilité. En somme, cette saison 2025-2026 a eu donc des allures sismiques, mais les secousses avaient des origines bien anciennes, et on peut se féliciter tout de même de la dimension révélatrice de ces phénomènes. ce qui nous permet de mesurer le degré d'aveuglement de nos contemporains quand ils s'étonnent des conséquences inéluctables de ces tendances qui étaient tout de même à l'œuvre depuis des décennies. Puis cet été nous permet donc de prendre le recul nécessaire pour n'être pas pris de court à la rentrée, puisque cette accélération dont nous avons observé les prémices risque l'année prochaine de s'emballer encore.
Merci cher Romaric. En effet, l'IA est une nouveauté, on peut craindre beaucoup de choses. Néanmoins, il y a quand même quelques réussites de l'IA. Par exemple, une réussite musicale avec un tube qui est depuis entré dans l'histoire. Je partirai pas. Si, tu partiras. Voilà. Revenons avec notre invité Olivier Maillard. Donc, l'arrière-cuisine des mousquetaires, cette revue culturelle en ligne. Je précise, chers auditeurs, que c'est de l'humour. Cette chanson est une daube, néanmoins très drôle. Donc l'arrière-cuisine des mousquetaires, revue numérique culturelle en ligne, on va parler littérature, on va revenir à la littérature, mais je vous propose un petit détour par le cinéma, étant donné que vous êtes également professeur de cinéma, la plus grande groupine mondiale de Tom Cruise. Alors, l'été en France a débuté cinématographiquement parlant plutôt bien, ça tombait bien, il y avait la canicule, donc les gens se réfugient au cinéma. Et il y a trois films qui ont fait un peu le... qui ont fait parler et qui marchent. Le diptyque sur De Gaulle, le retour de Spielberg et le Nolan. Alors, est-ce que je... Donc le Nolan, vous ne l'avez pas encore vu, vous allez nous préparer une critique saignante pour la rentrée, mais vous avez vu le diptyque sur De Gaulle, d'Antonin Baudry, et le Spielberg. Alors je vous propose de commencer par les De Gaulle. Qu'en avez-vous pensé?
Ben écoutez, j'ai trouvé ça tout à fait réussi. J'avoue que j'y allais sans idée préconçue. Je n'avais pas vu le film précédent du réalisateur, mais j'avais lu sa bande dessinée Quai d'Orsay, qui était extrêmement drôle et tout à fait brillante et réussie, vraiment, enfin, qui témoignait d'un grand talent comique et d'observation, et puis d'une connaissance très fine. Enfin, j'ai vu depuis un peu le parcours de ce réalisateur, qui a un parcours tout à fait étonnant, puisqu'il fait Polytechnique, l'ENS, il se retrouve dans la diplomatie, etc., enfin, qui lui a permis de côtoyer des univers extrêmement différents. Et je pense que le film s'inscrit à la fois dans une politique de renouer avec des films un peu de prestige, assez chers, des reconstitutions en costume, etc., qui produit pas forcément les choses les plus révolutionnaires ou les plus intéressantes du point de vue cinématographique, mais sachant que ça s'inscrit là-dedans, c'est quand même un film tout à fait, enfin un diptyque de film tout à fait réussi, et notamment, mais ça a été beaucoup dit d'ailleurs, puisque l'accueil critique est plutôt bon, la manière dont il traite le personnage de Gaulle de manière comique est vraiment une trouvaille très très intelligente, ce qui était déjà ce qu'il faisait avec Villepin dans Quai d'Orsay d'ailleurs, hein, qui était un personnage presque une marionnette, un peu ridicule. Et là, on a ce télescopage qui est le mariage de la carpe et du lapin, quoi, de la grande histoire terrible de l'effondrement de la France, de la mise en place de la France libre, etc. Et ce personnage qui, par certains aspects, m'a fait penser à Monsieur Hulot, en fait, à un personnage de Jacques Tati, c'est-à-dire avec une raideur très grand, très mince, inadapté dans des endroits trop petits pour lui, qui se cogne partout, etc. Et il faut reconnaître que de ce point de vue-là, c'est non seulement la mise en scène, mais aussi évidemment la prestation de Simon Abkarian qui fait la réussite, hein, du personnage de De Gaulle dans le film. Et c'est une vraie trouvaille, parce que quand on voit des vidéos de De Gaulle, généralement, c'est des captations de conférences de presse beaucoup plus tardives, des années 60, et on sait qu'il était drôle, par exemple. Ces conférences de presse, elles sont très drôles, mais d'un humour, d'une théâtralité, qui n'est pas exactement ce qui est mis en place ici, parce que là, il est en position de... un peu comme Charlot, en fait, hein, de lutte face à un monde qui est plus fort que lui, et néanmoins il résiste et revient toujours à l'assaut, comme le personnage de Charlot, et ça fonctionne très bien. Donc je dois dire que j'ai trouvé le diptyque tout à fait heureux et réussi, d'autant plus qu'il avait le côté sympathique et finalement inattendu, par les temps qui courent, de proposer une relecture historique et politique sympathiquement critique vis-à-vis du monde anglo-saxon, qui est le véritable ennemi du film, puisqu'il n'y a quasiment pas de personnage d'allemand, en fait, hein, pendant 5 heures de film, on voit, il n'y a quasiment pas un allemand qui parle, en fait. Par contre, il y a vraiment des Anglais et des Américains qui nous veulent, sous couvert de nous aider, pas mal de mal. Et ça, c'était aussi assez rafraîchissant, j'ai trouvé.
Et vous avez raison de rappeler, le parcours d'Antonin Baudry, en effet, est étonnant. Et qui, en effet, avait signé la bande dessinée Quai d'Orsay sous le nom de Abel Lanzac, c'était son pseudo, et la BD Quai d'Orsay, qui, je rappelle pour ceux qui l'ont oublié, ou ceux qui ne l'ont pas lu, que c'est le fameux discours de Villepin face aux Américains à l'ONU, et que ça raconte l'histoire de ce prêtre-plume qui rencontre Villepin et qui va écrire ce discours-là. Alors c'est très, très, très amusant. Et d'ailleurs, en sorte, et on retrouve ce découpage très bande dessinée dans le film de Gaulle, ce qui est la partie sympa de l'opus 1, je trouve. Et quand on voit la promotion de Antonin Baudry, qui assume complètement son anti-américanisme, ce qui est assez jouissif, je me demande si c'est pas lui qui était le prêtre-plume qui a écrit le discours à l'ONU. Parce qu'il raconte cette histoire-là, il a un parcours atypique. Bon, je me demande, je lance ça comme ça, c'est mon interprétation, mais ce qui est assez, voilà, je pense. Parlons de films historiques, il y en a eu un avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que oui, qui est période de guerre également, c'est Les Rayons, les Ombres de Gianoli, qui a approché le million d'entrées également, film de 3 heures. Alors, pour le coup, sujet plus difficile, mais avec de l'ampleur, du budget. Des acteurs connus, quoi, Jean Dujardin en tête d'affiche, et qui a fonctionné également, alors que c'est un film de 3 heures. C'est vrai que le cinéma a tendance à faire des films de plus en plus longs, et pour la majorité, de plus en plus mauvais, ce qui est assez désagréable. Quand le film est long et mauvais, ça devient encore plus compliqué. Mais, et donc, en effet, on voit dans le cinéma français ce post-Covid où les distributeurs ont découvert que les Français étaient pas revenus au cinéma, les Français se sont rendus compte que ça leur manquait pas tant que ça. On est revenu à du film, ce qu'on appelait de manière très péjorative, le film de patrimoine. Et on voit Le Comte de Monte Cristo, on voit De Gaulle, on voit Les Misérables qui arrivent à la rentrée, on voit Les Rois Maudits qui vont être adaptés, pour essayer de retrouver un commun avec des références communes aux Français. Et avec de l'ampleur, ce côté qu'on appelle de manière très injuste américain blockbuster, alors qu'on en faisait bien avant que les Américains en fassent
un. Oui, alors moi je suis assez dubitatif sur ce. Alors je vois le même cheminement que vous, effectivement, et la même logique du côté des producteurs, c'est-à-dire ramener les spectateurs dans les salles, jouer sur du commun justement, et donc quelque chose de patrimonial, sur une certaine ampleur, un certain prestige. Ensuite, je suis pas sûr. Alors, j'ai vu qu'il y a un Fantomas qui est annoncé. Il y a un film
également
sur le père d'Alexandre Dumas aussi. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de reconstitutions historiques, de choses comme
Alors,
ça.
Alors, sur le film de l'HD, sur le père d'Alexandre Dumas, l'historien qui a écrit ce livre d'histoire s'est barré du scénario au milieu en voyant comment l'HD allait transformer le truc. Alors, bon, je suis pas certain qu'il marche celui-là, mais... Je vous laisse continuer.
En tout cas, moi je vois ce qu'il a de commun avec cette vague patrimoniale, quoi. Ensuite, bon, les résultats sont inégaux. Il y a des choses plus réussies que d'autres. Les Trois Mousquetaires étaient sympas. J'ai moins été convaincu par Le Comte de Monte Cristo. J'ai pas vu les Misérables. En fait, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans l'histoire du cinéma français. C'est-à-dire que vous en avez eu des vagues comme ça dans les années 50 aussi. Mmh. Vous en avez eu dans les années 1920 ou 1910. Enfin, les Italiens, ils appelaient ça du colossal, avec un K, pour parler de ces grands films sur la Rome antique ou sur la Renaissance, etc. C'est une des attentes du cinéma de toute manière, c'est-à-dire l'émerveillement devant le spectaculaire, les normes, etc. Et Nolan, d'ailleurs, est aussi sur ce registre-là, avec des moyens encore plus impressionnants, évidemment. Mon idée, c'est quand même que ça parle de choses anciennes et ça s'adresse à des personnes anciennes. C'est que d'une certaine manière, je ne suis pas sûr que ça aide au rajeunissement du public en salle. Mais bon. C'est en tout cas la voie qui a été choisie notamment par Pathé et d'autres maisons de production. Et pour le coup, pour le De Gaulle, c'est sûr qu'au moins, ça a eu l'avantage d'être original, inattendu et de proposer quelque chose de plaisant.
Quel que soit le sujet, de toute façon.
Baudry avait fait un mémoire sur Wong Kar-wai avec Nicole Brenez, en plus, qui est une grande spécialiste du cinéma expérimental. Et c'est quand même un cinéma vraiment novateur, qui a vraiment été assez bouleversant pour des gens de ma génération, du point de vue de la sensibilité, du rythme, de la musicalité, etc. Et c'est pas exactement la même chose qui nous est proposée dans ces productions patrimoniales.
Oui, tout à fait. De toute façon, quel que soit le thème choisi, il faudra un auteur et un regard, sinon les gens se lasseront de toute façon. Et donc l'autre film qui est sorti en ce début d'été, c'est Pepe Spielberg à 79 ans, qui nous rejoue encore une fois Le Coup des Extraterrestres, donc je vais le dire avec l'accent d'Auvergne, Dyschloruse des.
Alors, oui. Alors, moi, j'ai une... Comme je disais en début d'intervention, j'ai, j'ai, J'ai des faiblesses coupables au cinéma. Et j'aime beaucoup Spielberg par principe, même dans ses films plus faibles.
Vous avez bien raison.
Disclosure Day était, alors pareil, je le prononce de la manière je ne sais pas quoi.
La française. En normand, à la normande.
Propose une sorte de mariage entre la veine, disons, E.T. rencontre du troisième type, et puis un truc plus paranoïaque policier comme il y avait dans Minority Report. Et je ne pense pas que le film soit du niveau de Minority Report ou de E.T., mais moi, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé et qu'il y a des morceaux de bravoure qui prouvent un tel savoir-faire, une telle qualité de regard caméra. C'est vraiment un homme qui pense avec la caméra, qui... Il y a un plan, notamment, je ne veux pas dévoiler trop l'histoire pour les gens qui ne l'auraient pas vu, mais où un jeune homme doit voir arriver toute une série de grosses voitures paramilitaires autour d'une maison où il s'était réfugié, et la caméra enjambe une barrière, la contourne, réenjambe la barrière, rentre dans une voiture, la voiture démarre. Enfin, il y a des plans d'une complexité, d'une sophistication absolument magistrale. C'est d'une très grande beauté. Il y a une lumière, c'est toujours son chef-op d'origine polonaise là, qui bosse avec lui depuis la liste de Schindler. Oui, voilà, qui fait des lumières des images très désaturées, avec très peu de couleurs, quelque chose d'assez triste et très beau. Il y a toute une idée très belle pendant la quasi-totalité du film. On voit des gens en train de construire un décor, ça fait un côté un peu méta, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et à la fin, quand on voit le décor terminé, c'est la maison emblématique du cinéma spielbergien, c'est-à-dire la maison la plus anonyme et la plus banale de la banlieue américaine, reproduite à des millions d'exemplaires dans tous les États-Unis, mais qui est le lieu de l'expérience à la fois traumatique et en même temps originelle du personnage principal. Et ça, c'est très beau, par exemple. C'est vraiment assez émouvant comme moment de retrouver le lieu de l'enfance et de retrouver le lieu de la rencontre avec eux, cet autre absolu qui est plus ou moins assimilé à Dieu, d'ailleurs, hein, qui est l'extraterrestre, un peu comme dans Rencontre du troisième type. Mmh. Et donc, même si le film a un peu des trous d'air au niveau du rythme, etc., moi, je dois dire que j'ai quand même trouvé ça... Comme souvent avec les films de réalisateurs âgés qu'on veut pas lâcher, hein. Moi je suis pareil avec Ridley Scott par exemple, ou avec quelques autres, jusqu'au bout je continuerai à aller voir leurs films en salle et à leur trouver quelques qualités, même s'ils sont inégaux.
Mais ils ont un savoir-faire, et ce qui est intéressant pour ceux qui aiment Spielberg, on retrouve en effet et les thématiques et aussi les personnages, parce que l'histoire d'un couple, quoi, d'un homme et d'une femme qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer dans cette poursuite. Et l'homme ressemble furieusement à Elliot D.T. 20 ans plus tard, et la femme ressemble furieusement à Maggie de Hook 20 ans plus tard également, avec tout le passif, l'enfance, les mystères, les rêves et les cauchemars. Il nous reste 3 minutes, je vous propose de revenir à la littérature, parce que Romaric en a parlé dans sa chronique, la rentrée littéraire approche, il n'y a pas que la présidentielle qui va redémarrer en septembre, il y a la grande rentrée littéraire avec ses plus de 450 romans annoncé pour fin août, début septembre. Qu'attendez-vous de cette rentrée ? Avez-vous déjà un aperçu de ce qui nous attend ?
Alors, s'il y a bien un point sur lequel je plains beaucoup Romaric, c'est l'obligation professionnelle qu'il a d'avoir à affronter cette marée de 450 ouvrages qui lui tombent dessus tous les ans. Et je ne me sens pas du tout tenu ni obligé de suivre les rentrées littéraires. Par rapport à la chronique de Romaric, justement, tout à l'heure, c'est un des points. Cette baisse sur la vente, etc., du point de vue de la littérature, c'est peut-être aussi un rééquilibrage par rapport à une surproduction dont on s'est plaint pendant des décennies, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même tellement, tellement de livres inutiles qui sont publiés, qui ne sont pas destinés même à trouver un lectorat pour certains, vu le peu de librairies dans lesquelles ils sortent et le fait que personne n'en parlera. Moi, c'est surtout le côté tsunami-esque de la chose qui me frappe. C'est-à-dire que je serais bien incapable, je suis pas, pour le coup, je suis pas journaliste littéraire, de vous dire, tiens, cette année, la tendance est à le témoignage familial, le ceci, le cela, etc. C'est par contre les volumes qui me paraissent toujours un peu homériques, pour le coup, un peu délirants. Et au milieu de tout ça, moi, ce dont je suis persuadé, par contre, c'est qu'il y a des livres de qualité. Il y en a toujours. Il y a toujours d'excellents livres qui se publient. Il y a d'excellents auteurs vivants en France, à l'étranger. Mais la littérature, effectivement, c'est Michaud qui disait au-delà de 300 lecteurs, ce que les gens ne m'ont pas compris ou des choses comme ça.
C'est un malentendu.
Voilà, c'est un malentendu. Il y a effectivement quelque chose de cet ordre. Je suis sûr que justement Romaric saura, comme un pêcheur de perles, nous trouver deux, trois livres tout à fait honorables et même bons dans ce flot-là, et que les 9 dixièmes auraient mieux fait de laisser les arbres sur lesquels ils ont été imprimés tranquilles.
Et bien donc je vous donne rendez-vous, chers amis, en septembre pour savoir s'il y a quelques perles à tirer de ce raz-de-marée dégoulinant de la littérature française.
Cela dit, comme disait Olivier, il n'y a que 430 livres cette année au lieu de 600.
Voilà. Alors, je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver donc les critiques de notre ami Olivier Maillard sur cette revue numérique en ligne, L'arrière-cuisine des mousquetaires, c'est arrière-cuisine.com. Voilà. Chers auditeurs, on était ravis de passer cette première saison de Restons Courtois avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée et de belles vacances pour ceux qui en ont. Nous, on va en prendre. Et comme ça, on reviendra très en forme à cette rentrée de septembre. À très bientôt.
Merci. Ça suffit maintenant.